Corps,
amour,
sexualité.
Calibre, une émission en direct sur Radio Kaléidoscope.
Calibre, une antenne libre où poser des questions sans tabou ni jugement.
Tous les jeudis, de 20h à 21h, appelez-nous au 04 76 09 09 09.
Bonsoir.
Bonsoir.
C'est Calibre, c'est le 4 novembre 2010, les 20h, et vous êtes bien sur Radio Kaléidoscope, 97 FM à Grenoble et partout ailleurs sur Internet.
Alors, qu'est-ce que c'est que ces Calibre ? Calibre, c'est une libre antenne.
Attends, j'ai pas présenté l'équipe.
Pardon. Prétends que présente.
Bon, Mimi, que vous venez d'entendre, Emma, et à l'équipe technique, il y a Laura et Maud.
Absolument. Voilà. Bon, c'est un petit peu...
Qui vous répondront au téléphone et qui se marrent bien comme des baleines parce que nous, on est un peu à l'arrache.
Voilà, laissez-nous vous prévenir. Ce soir, c'est du grand n'importe quoi. Nous sommes arrivés il n'y a pas très longtemps dans le studio alors qu'on était censé préparer l'émission pendant 1h30. Donc, s'il vous plaît, ne nous en voulez pas trop si c'est un petit peu funky ce soir. Ou peut-être ça sera rigolo. Hein,
on verra.
Bon, mais c'est quoi Calibre en vrai, si jamais vous ne savez pas encore? Eh bien, c'est une libre antenne. Qui dit libre antenne dit que vous nous appelez et puis qu'on discute des sujets dont vous voulez parler, donc des sujets contrés à nous, à nos vies, nos amours, nos amitiés, nos corps, nos sexes, ce qu'on veut en fait. Hein. Voilà, donc le numéro de téléphone, c'est le 04, il est facile en plus, hein. 04 76 09 09 09. Et voilà, vous pouvez nous appeler pour témoigner, pour poser une question. On essaiera de répondre dans la mesure de nos connaissances, de nos envies, de nos opinions. Voilà, on n'est pas des expertes. Hein. Ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas dit, donc redisons-le. On chemine ensemble et... Et puis voilà, je vais arrêter le blabla. Donc vous pouvez nous appeler pendant la musique là qu'on va mettre. Donc un premier petit morceau. Emma, je te laisse le présenter.
Oui, alors ça s'appelle... attends, j'ai perdu mon papier. Evita Arbraz, mais c'est une musique d'un groupe qui s'appelle Dan Arbraz. Et c'est de la musique celtique. C'est un groupe notamment breton. Oui, parce que il n'y a pas de raison, en fait. Pourquoi à Calibre, on ne passerait pas de la musique bretonne?
Ben, mais tout à fait.
Voilà, donc on y va. Iviata huai tonuna iviata etaraderuan iviata huai tonuna iviata ateruan iviata huai tonuna iviata etaraderuan iviata huai tonuna iviata etaraderuan iviata.
vous êtes bien sur Calibre. C'était donc un petit morceau de musique celtique. Vous pouvez toujours nous appeler, bien entendu. Il n'est que 9h et quelques.
Non, il est 8h et quelques.
Excusez-moi, la montre en face de moi n'a pas changé d'heure. Je suis un petit peu déphasée, n'est-ce pas? Au 04 76 09 09 09. Et bah, en attendant, je voulais vous parler. Je ne sais pas si vous êtes au courant, samedi, il y a une manif. Non, ce n'est pas la manif contre la réforme des retraites.
Celle-là, elle est toujours...
Elle est là, elle est partout. Mais en fait, je voulais parler d'une manif qui est prévue depuis un petit moment aussi, qui ne se passera qu'à Paris, et qui est une manifestation pour la défense du droit à l'interruption volontaire de grossesse et contre le démantèlement de l'hôpital public. Un vaste, vaste programme. Pourquoi j'avais envie de vous en parler? Parce que aujourd'hui, souvent on s'entend dire que le droit à l'avortement, donc l'interruption volontaire de grossesse et l'avortement, donc on appelle ça l'IVG, peut-être que je vais employer le sigle après, donc c'est pour qu'on se retrouve bien. Aujourd'hui, on entend beaucoup dire que c'est un droit qui est acquis, il faudrait un petit peu arrêter de réclamer des choses qui existent déjà, que les femmes ont déjà obtenu beaucoup de droits en termes de contraception et d'avortement, et pourquoi aller manifester, quoi. Sauf que ce qu'on ne sait pas, c'est que non seulement le droit à l'avortement, la législation en fait, qui démarre donc avec la loi Veil en 1975, et vraiment en deçà de ce qu'étaient les revendications des femmes avant que cette loi arrive. En fait, ça n'a pas été une loi qui a, concrétisé les revendications des femmes qui se battaient dans les années 70 pour le droit à l'avortement. Mais c'est un peu une loi qui est arrivée par peur que les femmes prennent plus de droits. Je schématise un peu, hein, mais c'est quelque chose qu'on sait pas beaucoup. Donc des lois existent, effectivement, l'avortement est un droit, mais non seulement les lois ne sont loin d'être parfaites, elles sont pas appliquées partout, il manque des moyens pour les appliquer, et en plus on est dans une espèce de régression en ce moment, parce que l'hôpital public est en train d'être mis à mal, comme toutes les réformes de l'État, et que notamment les centres, ce qu'on appelait les centres autonomes d'intervention volontaire de grossesse, les CIVG, depuis la loi de 2001, ont l'obligation de disparaître. C'est-à-dire que des centres qui étaient tenus par des militantes et des militants, qui étaient créés par ces personnes-là, donc qui croyaient vraiment au droit à l'avortement et qui géraient de manière autonome avec les financements autonomes, et ces centres, maintenant, ils ne vont plus exister et ils vont être intégrés au service gynéco-obstétrique comme ça se passe sur Grenoble avec l'hôpital Couple Enfant, par exemple. Ça veut dire qu'il y a moins d'autonomie pour les centres IVG et que c'est encore plus compliqué, quoi. Alors, quand on sait que déjà... dans le territoire français, les possibilités d'avorter ne sont pas les mêmes en fonction de où on habite, est-ce qu'il y a beaucoup de praticiens, de praticiennes ou pas. Si en plus on en arrive à des services regroupés avec moins de personnel, moins bien formé, il y a quand même pas mal de craintes à avoir sur comment ça va se passer. D'autant qu'on est dans un contexte où il y a un petit peu un regain des extrémistes, que ce soit les fachos des rues, là, les jeunes qui viennent faire des... qui viennent empêcher ou se montrer devant les centres d'IVG. Mais moi, là, je pense surtout aux intégristes religieux, en fait, qui influent de plus en plus aussi dans les choix faits dans le pays, dans les nouvelles lois, dans les nouvelles possibilités ou pas, et qui, eux aussi, se retrouvent régulièrement devant les endroits où on peut avorter pour, encore une fois, nous culpabiliser d'avorter, alors que c'est déjà compliqué dans cette société d'avorter et de vivre bien son avortement.
Ouais, et d'ailleurs, quand tu dis la loi Veil, en fait, elle a effectivement du coup légalisé l'avortement. C'est le point positif quand même de cette loi. Enfin, c'est compliqué, c'est controversé, ça, parce que il y a pas que du positif dans la légalisation des choses et dans l'institutionnalisation des pratiques. Mais en tout cas, ça a permis à des femmes de pouvoir avorter dans un cadre hospitalier, etc. Et voilà. Mais effectivement, en fait, c'est en deçà. Pourquoi c'est en deçà des revendications que les femmes avaient à l'époque? C'est parce que, notamment, il y avait plein de femmes qui militaient pour l'avortement libre et gratuit. Et c'est pas le cas aujourd'hui encore. Il y a des histoires de délai, on ne peut pas avorter quand on veut, on ne peut pas avorter où on veut, parce que si on décide aussi, par exemple, d'avorter avec des amis ou même une amie ou un ami médecin qui pourrait venir à domicile pratiquer l'avortement, bah, c'est interdit, des choses comme ça. Et c'est pour ça qu'on dit que la loi, elle a régularisé des choses et elle a permis des choses, mais elle a aussi contraint une certaine pratique, et elle l'a restreint dans une institution qui n'est pas forcément adaptée aux attentes des femmes, en fait.
Ouais. Et c'est vrai qu'en ce moment, c'est la loi, une loi qui date de 2001 qui régit le droit à l'avortement. Et bon, c'est vrai que cette loi, elle a amené pas mal d'avancées. Avant 2001, par exemple, les femmes sans papier n'avaient pas d'endroit où avorter. Elles ne pouvaient pas. Avant 2001, il était interdit de faire de la pub pour la contraception et l'avortement. C'était interdit, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas trouver de pub. Alors, depuis 2001, on a le droit de le faire. Voilà, il y a eu un petit peu des avancées. Les femmes mineures ne sont plus dans l'obligation depuis 2001 de déclarer, d'avoir l'autorisation d'un parent pour avorter. Ça, c'est une grosse avancée aussi. Elles ont besoin d'être accompagnées par une personne majeure, mais de leur choix. Donc voilà, il y a quand même eu des choses chouettes avec cette loi. Après, bon, ben, c'est sûr que elle va pas. Enfin, pour moi, elle va pas assez loin. C'est clair. Ne serait-ce parce qu'il n'y a pas les conditions d'application. Il n'y a aucun organisme qui va aller contrôler que cette loi soit bien appliquée partout et que sur tout le territoire, toutes les femmes puissent avorter. Il y a encore des endroits où c'est les délais d'avortement par voie
médicamenteuse.
Ouais, là je parlais plutôt de la voie qu'on appelle chirurgicale en fait, qui est par voie mécanique, qui a été prolongée de 2 semaines, mais sur ce prolongement de délai possible, en fait, c'est pas partout que c'est possible, parce qu'il y a plein d'hôpitaux ou d'endroits où il n'y a pas le matériel, où les gens ne sont pas formés. Et puis, vraiment, ce qui en ce moment est problématique, c'est la disparition de plein de lieux où avant on pouvait avorter, quoi. Donc, que ce soit ces centres autonomes dont j'ai parlé, mais aussi toutes les cliniques privées qui faisaient quand même une bonne partie des avortements en France, et qui, parce que ça rapporte pas assez, entre autres, ferment leurs services d'IVG, quoi. Donc il y a moins en moins d'endroits, il y a toutes les demandes qui se concentrent sur les hôpitaux publics, les services qui sont restructurés, donc on sait ce que ça veut dire en termes de services publics, les restructurations, donc c'est vrai que ça devient compliqué, et tout ça dans un contexte de culpabilisation totale des femmes et de l'avortement, quoi, c'est-à-dire... On est obligé de le vivre mal, c'est forcément un échec, c'est quelque chose qu'on a mal fait, alors que, mince quoi, en 40 ans de fécondité, bah ouais, forcément, il y a forcément des grossesses non désirées qui surviennent. Après, on en fait ce qu'on veut, quand on le peut, et il faut arrêter de mettre l'avortement à l'ombre de la contraception, comme si c'était un échec, quoi. Non, c'est un moyen de réguler notre fécondité comme un autre, quoi.
Ouais, justement, en fait, moi je trouve qu'il y a un discours assez paradoxal autour de ça, parce que d'un côté, l'avortement est forcément présenté comme un échec, comme tu viens de dire, de la contraception, ou une faute, ou on a mal géré ses pratiques sexuelles, etc. Et d'un autre côté, par exemple, à Grenoble, pour aller avorter, il faut aller à l'hôpital couple-enfant, dans le service gynécologie obstétrique. Et du coup, on va avorter dans le même service que des femmes qui ont désiré leur grossesse et qui ont mis des enfants au monde. Et tout ça devrait faire bon ménage.
Bah, j'ai envie de dire...
Oui, mais bon, voilà, justement, l'avortement, c'est pas... il faut pas le vivre comme un drame. On peut être au milieu des femmes qui ont eu leur bébé et tout. Bah, oui, mais alors à ce moment-là, pourquoi d'un autre côté on dramatise en fait cet acte, et même il est même pas annoncé à l'hôpital couple enfant en l'occurrence.
Ah oui, non, on sait pas.
C'est pas indiqué qu'il y a un centre IVG. C'est plus indiqué maintenant.
Mais c'est plus qu'on dramatise, c'est qu'on culpabilise les femmes, quoi. C'est-à-dire une femme qui va avorter plusieurs fois, c'est assez courant qu'elle se fasse traiter de récidiviste. Genre c'est un délit, quoi.
C'est un terme qui est
hyper fort, quoi, et qui est compliqué. Après, bon, y a des gens qui sont encore dans ces équipes-là et qui font leur maximum, mais c'est vrai qu'ils commencent à être un petit peu isolés, quoi. Et moi, c'est au-delà même de cette cohabitation entre des nanas qui avorteraient et des nanas qui voudraient avoir un enfant. Parce que ça, on va dire, dans une société, j'ai envie de dire, idéale, sans tabou, sans culpabilisation, ça pourrait le faire. Sauf que l'hôpital couple-enfant, c'est aussi là que vont les nanas qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, qui ont un cancer des ovaires, de l'utérus. Et donc, toi, t'arrives, tu viens avorter à côté, tu te sens bien, tu sais. Oula, toi, t'arrives pas à avoir d'enfants. Bah oui, moi, je viens avorter, salut.
Ouais, ouais. Bon, et puis aussi, une autre chose qu'on a pas mal critiquée à l'époque de l'ouverture de l'hôpital, aussi rien que l'intitulé, le titre de l'hôpital, bon, ça pose question. Et c'est pas le seul endroit en France. Il y a plein d'hôpitaux maintenant qui s'appellent comme ça.
Mère-enfant ou couple-enfant.
Ou mère-enfant, ouais. Etc. ça pose question.
Et puis au niveau des formations dans les études de médecine, il y a très 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 peu d'heures. Je crois que, enfin, je sais pas les chiffres que j'ai là, que j'ai sorti d'un bouquin dont je vais vous parler juste après. C'est sur les les 6 premières années d'études de médecine, donc qui à peu près entreront à peu près commun, je crois. Et après, il y a des spécialisations. Il y a entre 2 et 8 heures de formation théorique concernant l'IVG et la contraception. C'est sympa, hein, ça fait beaucoup. Hein.
Oui. Alors, qu'est-ce que tu veux nous dire sur ce
qu'est-ce
bouquin ?
Qu'est-ce que c'est que ce bouquin ? Bon, bah, c'est un bouquin dont j'ai dû déjà parler, mais peut-être pas aussi précisément, qui est un super génial bouquin qui s'appelle « Avorter, histoire des luttes et des conditions d'avortement des années 1960 à nos jours ». Donc c'est un bouquin qui est fait par le collectif IVP et qui est édité aux éditions Time Party et qui date d'il y a, je dirais, 2 ans, ça doit être 2008, quelque chose comme ça. C'est ça, automne 2008. Et la particularité, c'est que c'est un groupe de meufs, je crois. Oui, je crois que c'était que des meufs de Grenoble qui ont décidé de mener un travail d'enquête. Donc, pour retracer un petit peu les histoires de lutte pour l'avortement, pour le droit à l'avortement. Et donc, elles ont été recherchées dans des archives, retrouvées. Elles ont été rencontrées des militantes qui faisaient partie des mouvements dans les années 70. Et du coup, toute la première partie du bouquin est construite sur l'histoire de ces luttes, avec en regard qu'est-ce qui se passait au niveau national, quelles formations, quelles revendications, tout ça. Et au niveau de Grenoble, comment ça s'est passé, qui faisait quoi, comment. Parce que c'est vrai que Grenoble, c'était une place bien, on va dire, avant-gardiste sur la question de l'avortement à l'époque. Donc il y a toute cette partie qui est vraiment super intéressante. Et puis après, il y a une partie sur les conditions d'avortement aujourd'hui, donc qui reprend un peu ce que j'ai dit là, avec beaucoup plus de détails et plus d'informations sur comment ça se passe pour avorter aujourd'hui, quels sont les freins à pouvoir avorter, que ce soit des freins légaux, les freins de culpabilisation. Il est vraiment, il est vraiment très très chouette, ce bouquin. Voilà, et puis il y a quelques grands points qui sont révélés où on se formule pas forcément les choses comme ça, mais c'est important de savoir que de tout temps les femmes ont avorté, quoi. C'est pas quelque chose de nouveau, que le chiffre des avortements en France est stable depuis la loi Veil. Voilà, c'est à peu près 220 000 avortements par an.
Oui, alors que, en fait, excuse-moi de te couper, mais je vais vous parler aussi après d'une double page qui est parue dans le petit magazine du Conseil général et de l'ISER. Et on parle encore d'augmentation du nombre de grossesses non désirées et du nombre d'avortements. Et c'est pas vrai.
Non.
Ça, c'est vraiment de la propagande, pareil, qui culpabilise les femmes et qui dramatise, en fait, cet acte-là. Alors qu'en fait, quand on fouine dans les chiffres, on découvre qu'il est stable.
Au même titre que quand on répète et on martèle que l'avortement est dangereux, que ce soit pour la santé, des risques de stérilité derrière, tout ça c'est faux. Les techniques qu'on a aujourd'hui pour avorter ne sont pas dangereuses. Enfin, les seuls risques, c'est bon, une erreur humaine comme pour tout acte médical, on va dire. Et après, c'est quand on choisit la méthode mécanique, c'est l'anesthésie qui va avec, c'est le seul risque, quoi. Donc aujourd'hui, l'avortement pratiqué dans le cadre légal n'est pas cause de mortalité ni de stérilité. Il peut y avoir des cas exceptionnel où ça s'est mal passé, mais c'est pas l'acte en lui-même. Par contre, au jour d'aujourd'hui, toutes les 7 minutes dans le monde, il y a une femme qui meurt parce qu'elle a été contrainte à un avortement illégal, parce qu'il n'y avait pas de cadre légal pour le pratiquer dans de bonnes conditions. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire que quand il y a les anti-avortements là, qui se dénomment eux-mêmes les pro-vie, eh ben, je suis désolée, mais ce n'est pas des pro-vie, quoi. C'est à cause d'eux qu'il y a des nanas dans le monde qui meurent parce qu'elles ne peuvent pas avorter dans des bonnes conditions. Mmh. Et moi aussi, cette espèce de discours qu'on nous ramène sur l'avortement, il y a des espèces de faux débats autour de l'avortement, être pro, enfin pour l'avortement ou contre l'avortement. Mais c'est quoi ce débat, quoi ? Est-ce qu'on a un débat sur est-ce qu'il faut avoir des enfants ou est-ce qu'il ne faut pas avoir des enfants ? Non, là, c'est la question du choix, que chacune et chacun puisse faire ses choix et de comment on peut avorter dans de bonnes conditions, quoi.
Mais c'est vachement important le parallèle que tu viens de faire, je trouve qu'il est hyper parlant parce qu'on dirait jamais qu'on est pro-enfant ou anti-enfant. Et ça dénote bien en fait de l'aspect culturel de la question et que c'est vraiment il faut replacer le débat à sa place justement. Enfin, et de pouvoir dire voilà, l'avortement c'est une question de choix et c'est pas une question d'opinion et ouais. De quelle opinion doit peser en fait sur la question sociale.
Après, c'est clair que chaque personne a ses sensibilités, ses opinions ou ses croyances religieuses et il s'agit pas d'imposer quelque chose, c'est juste de pouvoir faire en sorte que chaque personne ait accès à ce dont elle a besoin, envie, quoi. C'est quand même fou qu'il y ait des gens qui s'opposent à ça. Tu te dis, c'est vraiment du contrôle de notre corps, dans quel but ?
Ouais, et du coup, c'est souvent qu'on nous renvoie, parce que bon, là, du coup, quand même, on dit pas mal ce qu'on pense, mais moi, je suis pas pro ou avortement ou je sais pas quoi, je suis pro-choix. Et c'est vachement important, ça, de pouvoir rappeler ça, parce que à partir du moment où tu défends le droit à l'avortement, t'es pro-avortement. Et c'est fou ça. c'est pas la question en fait. Moi, je suis pas contente que plein de femmes avortent, comme je suis pas contente non plus que plein de femmes aient des enfants. Simplement, j'ai envie qu'on puisse choisir et qu'on puisse avoir les conditions de choisir. Et c'est pas le cas actuellement. Ouais. Effectivement, il y a une loi, mais cette loi, c'est pas un cadre qui permet aux femmes aujourd'hui d'avorter dans de bonnes conditions, comme elles veulent, où elles veulent, etc. Ouais. Donc, nous, c'est ça qu'on veut, en fait, c'est que les femmes puissent choisir.
Ouais. Bon, voilà, on a pas mal parlé d'avortement, du coup. On vous remettra sur le site internet les coordonnées et du livre et sur cette histoire de comment ça se passait avant la loi Veil ou quand elle est passée et des collectifs de femmes, notamment je pense au MLAC, qui luttaient pour d'abord pratiquer les avortements quand c'était interdit, pour que les femmes puissent accéder à des avortements dans des bonnes conditions. Pour la petite histoire d'ailleurs, c'était pas des médecins qui pratiquaient les avortements à l'époque, c'était des femmes qui se formées, qui n'étaient pas du secteur médical à la base. Hein. Et ça, on n'y penserait pas aujourd'hui.
Il y avait des sages-femmes aussi qui pratiquaient.
Il y avait une transmission, mais ouais, ce n'était pas forcément des médecins. Aujourd'hui, c'est que des médecins qui ont le droit de le faire.
D'ailleurs, qui ne sont pas nombreux à vouloir le faire.
Et de moins en moins.
Ça joue aussi dans les conditions d'avortement. Ouais.
De moins en moins, parce que les militants des années 70 prennent leur retraite peu à peu, et puis il y a peu de relève à cause de la formation qui est inadaptée et de tout ça, quoi. Et donc, il y a un super film.
C'est un axe qui n'est pas valorisé.
Oui, qui est peu
c'est
payé.
Quand même, on va pas. Le médecin qui rentre chez lui le soir, il ne va pas dire ouais, super, aujourd'hui j'ai fait 3 avortements, super, quoi.
Alors que s'il a supervisé 3 accouchements, là c'est la gloire, quoi. Et oui, et du coup, il y a plein de références aussi dans ce livre, et notamment ce film qui s'appelle Regarde, elle a les yeux grands ouverts, et qui va suivre un groupe, un MLAC d'Aix-en-Provence qui se pose les questions de continuer à pratiquer des avortements une fois que la loi est passée ou pas. Voilà. Bon, je m'arrête là, on vous mettra donc les références sur le site internet, et je m'arrête là parce que nous avons un appel.
Voilà, donc on ne sait pas, alors du coup on nous a donné l'antenne, alors allô, est-ce que tu nous entends ?
Oui, bonjour.
Bonjour. Bonjour. Alors c'est Emma et Mimi à l'antenne, on te laisse
nous expliquer pourquoi tu nous appelles.
j'avais appelé il y a quelques temps, et vous m'aviez dit de rappeler.
D'accord.
Et en fait, à l'époque, j'étais sur un parcours de stérilisation volontaire. Et ben voilà, c'est fait.
D'accord.
Et donc, bah, je voulais dire que j'étais très content, que ça s'était très bien passé. Et puis, s'il y a des questions sur la manière dont ça se passe, dans mon expérience, hein, qui est peut-être pas universelle, je suis voilà. Et puis, ça m'évitera pour la semaine prochaine d'avoir des problèmes de préservatifs qui fonctionnent pas.
Tu veux raconter un peu comment tu te sens ou comment ça s'est passé
Si tu veux, ouais.
Bah nous ça nous intéresse, après c'est toi si t'as envie.
Ouais c'est un petit peu pour ça qu'on se parle. le parcours, je crois que j'ai commencé par sur les bons conseils de tout le monde d'aller voir le planning.
Ouais, le planning familial.
Ouais. Qui m'a conseillé quelqu'un, un praticien qui faisait ça couramment.
Ouais.
Que donc ensuite en parallèle de ça, je suis allé voir mon médecin classique, médecin, je sais plus comment.
Ouais, généraliste.
Ouais, mais c'est un nom, ce référent.
Ah oui.
Qui m'a fait un courrier pour le médecin qu'il connaissait pas. D'ailleurs, il y connaissait rien, mon généraliste.
D'accord.
Qui m'a fait un courrier de recommandation, avec lequel j'ai pris rendez-vous et je suis allé voir le spécialiste. Donc c'est un urologue.
Mmh.
Et qui m'a dit, bah écoutez, il n'y a pas de problème, moi j'en fais toute l'année, et donc dans 4 mois, si ça vous va bien, vous serez vasectomisé. Alors il m'a dit qu'on ne disait pas vasectomié.
Oui, on avait eu un petit... on se posait la question l'autre fois.
Ouais. Mais... Ah, officiellement, c'est isé.
Isé, très bien.
Et donc il m'a expliqué tout le process, toute la mécanique. Donc en fait, lui faisait... Alors il avait ce qu'il disait, il proposait de faire déjà une anesthésie générale. Et non pas une péridurale.
Ah d'accord.
Parce que d'une part, il trouvait que le patient était plus calme.
Oui, souvent c'est plus confortable pour les médecins de pratiquer alors qu'on est complètement endormi.
Oui. En plus, il trouvait que... Bah, en fait, maintenant, il y a eu quand même des gros changements dans les dosages, les produits, etc. Donc en fait, même si c'est une générale, elle est très courte.
D'accord.
Là, j'ai été endormie suffisamment pour être opérée pendant une demi-heure.
Ah ouais. D'accord.
Et
toi, tu souhaitais pas avoir une anesthésie locale? Enfin, en tout cas, c'était pas possible.
Je pense que si j'avais demandé gentiment, tout le monde, c'est pas lui qui la faisait.
Ouais.
Ça aurait été jouable, je pense. C'était peut-être aussi une manière de présenter les choses.
D'accord.
Mais j'avoue que je suis pas super. La voie d'accès par le rachis me fait un peu peur, quoi.
Oui, d'accord.
Et donc, moi, ça tombait bien, c'était ce que je voulais. Voilà.
Oui. Bon. Tu peux nous expliquer ce truc de voie d'accès par le je ne sais quoi?
Le rachis par la colonne vertébrale.
Ah ouais?
Parce que en fait c'est exactement la même péridurale que celle que quelqu'un qui accoucherait aurait, et donc du coup c'est un accès direct. Donc l'avantage c'est qu'effectivement ça chante qu'une partie, ça permet vraiment de rendre complètement indolore des zones sélectionnées, mais c'est un accès qui se fait directement par comme une péridurale de
pour accoucher, quoi.
Pour un accouchement.
Ouais. Moi, c'est vrai que j'ai entendu récemment un témoignage d'une nana qui a accouché sous péridurale et où les dosages où ça a été mal piqué et qu'elle a eu des séquelles pendant 2 ans, des évanouissements tout le temps.
Ouais. Et puis, j'avais souvenir aussi, pour avoir assisté à une naissance de très près, que ben, c'était quand même. C'est pas rien, quoi.
Effectivement.
Je parle de l'anesthésie, après le reste je pourrais aussi en parler, mais ouais. Pas le sujet. donc encore quoi, donc dans le processus avec le docteur, le spécialiste, l'urologue, il m'a vu, j'avais déjà amené le petit document pré-format en disant que je m'engageais, que j'étais conscient et que je voulais réfléchir pendant 4 mois.
Ouais, ça c'est un document que tu es obligé de remplir légalement pour avoir le droit d'avoir la stérilisation volontaire.
Oui.
Avec c'est le délai de réflexion de 4 mois.
Oui. Ouais, idem pour les filles.
Waouh, d'accord.
Ceci étant, j'ai eu plusieurs retours de personnes qui n'ont pas eu besoin d'attendre 4 mois, dans la mesure où si on démontre qu'on avait, par exemple, déjà commencé une procédure dans une autre ville ou avec un autre
ah oui.
Et puis que, et qu'on avait déjà signé le papier, en fait, apparemment, il n'y a pas de... si le médecin a envie, il peut le faire la semaine prochaine, quoi.
D'accord.
Et à contrario, il y a des médecins qui prolongent la durée de réflexion.
Oui, mais ils n'ont pas le droit, donc je pense que c'est des gens qu'il faut éviter peut-être si on peut en amont. Et normalement, j'imagine que via le planning, on donne des coordonnées de personnes qui sont pas des réactionnaires, quoi. Et voilà, quoi. Donc après, j'imagine aussi que c'est pas toujours facile d'y voir clair avec un spécialiste en face de soi, etc.
Ouais,
et donc je comprends que ça peut être difficile, hein. Et de se laisser embobiner par des médecins, on le voit très, ça arrive, hein, donc.
Ah oui, tous les jours. Et en fait, est-ce que du coup maintenant, ça fait combien de temps que tu t'es fait vasectomiser?
Donc l'opération a eu lieu tout début octobre.
D'accord. Et tu as eu des douleurs après? Comment ça s'est passé la convalescence, si on peut dire?
J'ai beaucoup dormi.
D'accord.
Des douleurs, c'est un bien grand mot, mais je pense qu'il faut rester calme parce qu'en fait, l'endroit des cicatrices est mal placé. Et donc du coup, selon le type de sous-vêtement qu'on porte d'habitude, ils conseillent, hein, de prendre un slip en béton, super serré, etc. Moi, j'ai même piqué des slips d'enfant pour être sûr que c'était tout petit. Et ça marche en plus, ils sont pas chers, ça vaut le coup.
Ah,
et
ouais.
Bah oui, ça vaut deux fois rien dans les supermarchés solderies comme ça. Et puis, ben oui, c'était un peu désagréable. Puis après, ben lors des premières aventures sexuelles, c'est sûr que ça, on sent des choses. Mmh. Et là, c'est pas tout à fait neutre, mais j'ai jamais eu de je me suis jamais roulé par terre, etc.
D'accord.
Voilà. Y a une période dans laquelle il faut continuer à se protéger pour éviter des grossesses?
J'ai pas bien entendu la question, mais je crois que je l'ai comprise. Là, par exemple, j'ai pas encore fait un spermogramme.
Ouais.
Et normalement, la petite vésicule qui stockait ce que j'avais produit de spermatozoïdes n'est peut-être pas encore vide. On compte en général 5-6 semaines.
D'accord.
Et voilà. Et
du coup, ça, c'est un procédé où X semaines après l'opération, tu vas contrôler que tu n'aies plus de spermatozoïdes.
Oui, c'est ce qu'on fait dans une PMA aussi. C'est un truc que j'avais fait il y a longtemps. En fait, on va au laboratoire, on donne du sperme et puis ils disent, voilà.
D'accord. Et ça, tu le fais régulièrement jusqu'à ce que ce soit bon, quoi?
A priori, je pense que je le ferai dans 15 jours et ce sera bon.
Ok.
Parce que techniquement, ce qui se passe, c'est que les deux canaux déférents, donc il y a un accès de chaque côté des bourses du scrotum. Donc c'est une cicatrice qui va faire 4 mm, 5 mm de long. Aujourd'hui, elle est totalement invisible. Ce chirurgien-là, c'est une section franche. C'est-à-dire qu'il enlève, on va dire, 5-8 mm de canal déférent de chaque côté.
Donc pour éviter que ça se ressoude après, quoi.
Oui, puis pour être sûr que, bah, quoi, quitte à faire quelque chose pour que ça marche bien, qu'il y ait une vraie coupure, qu'il n'y ait plus du tout d'apport de spermatozoïdes dans le liquide séminal, quoi.
D'accord. Ben, c'est super intéressant que tu aies rappelé, hein. Merci de nous raconter. C'est chouette. Est-ce que...
J'entends pas.
Ah, oui, c'est parce que je parle pas bien en face du micro, c'est ça?
Et je pense, là, d'un seul coup, ça s'est vachement amélioré.
Ah, d'accord. Non, je disais, c'est chouette de nous avoir appelé pour nous raconter un peu comment ça s'est passé pour toi. Et c'est utile, en fait, je pense. C'est vraiment pas... Je pense que c'est pas très discuté, c'est pas répandu comme possibilité, en fait, de contraception. Et moi, je trouve ça vraiment hyper intéressant que des hommes puissent témoigner là-dessus et prennent un peu leur responsabilité dans la prise en charge de la contraception. Et voilà, du coup, ça fait plaisir.
Ouais.
C'était le but du jeu.
Oui.
Et il y a un autre point qui mérite d'être mentionné, c'est que le remboursement,
ouais,
peut être quasiment total. C'est que j'ai rencontré des personnes à qui ça a coûté 1 euro.
Ah ouais.
Avec la CMU ou...
Avec la CMU plus CMUC. Donc les personnes les plus désavantagées, finalement, s'en sortent peut-être mieux. Ça me coûtera un petit peu plus, mais vraiment pas quelque chose d'exorbitant.
C'est de quel ordre de prix?
Ça va me coûter peut-être 20 euros parce qu'en fait, j'ai dû rentrer, il n'y avait personne pour venir me chercher ce jour-là, ça tombait mal. Et donc du coup, je suis rentré en taxi.
D'accord. Ah oui, d'accord. Bon.
Et
c'est bien.
Ouais.
Ouais, c'est super.
Ah, c'est chouette, c'est une belle information ça aussi parce que...
Et bah, c'est important parce que quand on compare, d'une part ça permet de s'approprier cette chose-là et moi, pendant des années je l'ai pas fait et je m'en voulais. Mmh. Et puis, y compris quand il y a des ratés. Hein. Mmh. Et puis, ça responsabilise et puis aussi ça permet de se dire que c'est... Voilà, je trouve que ça génère un mouvement. Et puis sinon, il n'y a aucun changement hein, d'humeur ou de libido ou de machin.
Oui, ouais, c'est, finalement, c'est un geste mécanique.
Du ouais. coup, ça... Et de toute façon, ça, je ne savais pas, c'est que même quand on n'est pas vasectomisé, on recycle sans... Si on n'éjacule pas, par exemple, on recycle systématiquement la majeure partie de nos spermatozoïdes. Mmh. Et ils ont une fonction de régulation endocrinale, etc., et la vasectomie ne change absolument rien à ça.
D'accord.
Parce que moi, j'avais effectivement lu des craintes de gars qui se demandaient si après l'éjaculat allait être différent ou totalement transparent ou pas de la même quantité ou pas la même, je sais pas, qualité. Ou toi, t'as fait des tests, t'as regardé.
Ouais, j'ai fait des essais comparatifs et exactement. Franchement, avant après, je pourrais pas dire la différence.
D'accord. Okay. Bon, ben voilà. Mm.
Et puis en fait, je me suis rendu compte, c'est marrant, c'est comme quand on, je sais pas, qu'on achète un chapeau pointu bleu, et ben on se rend compte qu'il y a plein de gens qu'on avait déjà. Mmh. Et en fait, il y a plein de pays où c'est quasiment un homme adulte pas sur deux, mais genre 40%.
Mmh. Ouais.
Qui dans les pays anglo-saxons,
ouais, c'est, notamment c'est en Amérique
super,
du Nord,
super
ouais.
classique quoi. Et il y a vraiment.
Aux États-Unis aussi, hein, il y a pas
ouais,
mal. Hein.
Ouais, ouais, ouais. Mmh. Australie, États-Unis, etc. C'est beaucoup plus, c'est complètement banal. Et voilà. Et alors, ce que j'ai aussi appris, c'est que dans le passé, avant que la loi ne change, mm-hmm. il y avait des médecins qui le faisaient sous couvert d'inspections urologiques.
Ah oui.
Et j'ai rencontré une personne qui m'a raconté que la personne, il était avec quelqu'un, ils avaient un problème de contraception qui pouvait plus être assumé par la personne féminine et du coup, en fait, il est allé voir son urologue, et le gars lui a dit mais il n'y a pas de souci, moi je vous prescris une, donc c'était il y a plus de 20 ans, mmh. il lui a prescrit une inspection chirurgicale des voies urinaires et au passage il a fait quick.
Ah ouais, oh. super.
Et donc du coup, ils ont résolu ces deux personnes ont résolu leur problème de contraception et donc ont un peu sauvé la personne féminine qui pouvait plus supporter aucun des trucs classiques. Mmh. Et ben pareil, hein, 20 ans après, la personne elle a l'œil vif, la bonne humeur et la vie est belle.
Et elle regrette pas.
Pas du tout.
C'est ça aussi qu'on entend beaucoup, c'est qu'après ouais. tu regretteras.
Mmh. Ouais.
Bon, bah chouette témoignage, ça fait plaisir. C'est une bonne initiative que tu as eu de rappeler. On a eu l'avant avec les questionnements, on a l'après avec les réponses. C'est mmh. merveilleux.
Ouais, ouais.
Après, je pense qu'il faut être vigilant quand on est peut-être dans une tranche d'âge plus basse, genre avant la trentaine, et que on n'est pas. On n'a pas encore eu d'enfant, par exemple. Je pense que là, il y aura peut-être plus de questions et puis il faut peut-être s'assurer au téléphone que, avant d'aller voir un spécialiste en disant clairement les choses, en disant bah voilà, j'ai 23 ans, je suis décidé depuis plusieurs années, je me suis renseigné. Est-ce que ça vous paraît possible pour pas aller voir quelqu'un qui vous facturera une consultation?
Oui, c'est ça. Tu dis qu'il peut y avoir plus de résistance pour des gars qui sont plus jeunes et le risque, c'est d'aller effectivement faire une consultation et de la payer pour rien et de devoir recommencer derrière.
Ouais. Et il y a aussi la personne du planning. Il y a des médecins donc, au planning qui m'ont dit qu'ils avaient déjà téléphoné pour, en tant que médecin, à leurs confrères, comme ils disent, et pour poser cash une question de ce type-là.
D'accord.
Et donc du coup ça leur avait permis de sélectionner des urologues qui étaient ok quoi, qui étaient pas okay. des extrêmes cathos ou des machins. Mmh.
Est-ce que t'as envie ou t'as pas envie de nous dire dans quelle région c'est que t'as fait ces démarches?
Je préférerais okay. pas le dire, mais j'ai rencontré des dizaines de personnes en fait. Je me suis un peu renseigné, j'ai tourné à droite à gauche et il y a assez peu j'ai exploré le nord de la France, le sud-ouest, le sud-est et tout ce qui est entre l'Alsace et chez vous.
Ouais.
Et j'ai eu quasiment que des échos de personnes qui avaient réussi à le faire dans des conditions à peu près pareilles. Mmh. Vraiment avec toujours en faisant attention au choix du médecin, de l'urologue.
Oui.
Qui avait l'air d'être le truc où ça passe ou ça casse, quoi, et où il faut pas se tromper, aller gaspiller ses cartouches et se faire décourager par un imbécile.
Mmh. Ouais, effectivement. C'est vrai que en fait, pour ce genre de choix, en fait, qui sont des choix, on va dire, difficilement acceptés encore à l'heure actuelle, en fait, dans cette société qui est quand même pronataliste, etc., c'est vachement important de pouvoir se faire conseiller sur des bonnes adresses. Et moi, ça me fait beaucoup penser aussi aux personnes qui cherchent à changer de sexe, qui cherchent à faire pratiquer aussi des opérations chirurgicales pour des changements d'identité. Et c'est pareil, là, c'est vraiment mieux d'aller voir des gens qu'on s'est fait conseiller et qui sont ouverts à la question et qui vont pas venir soit essayer de décourager, soit carrément culpabiliser ou semer le trouble dans les décisions de la personne, quoi.
Oui, je pense effectivement que c'est vraiment là où on peut soit rentrer dans un processus, je dirais, agréable et puis jouable, et sans mise en cause inutile, parce que c'est sûr qu'il y a des moments où on grimpe un peu au mur en se disant, ouais, qu'est-ce qui va m'arriver, et puis si, j'en sais rien, genre, moi j'ai entendu plein de fois, et tu n'imagines pas si tu tombes sur l'amour de ta vie, et que c'est une fille, et qu'elle veut avoir un enfant de toi, et j'avais pas envie d'entendre ça de mon médecin, quoi, parce que je crois que quand on est sur ce genre de parcours, on l'entend de toute façon 5 ou 6 fois, et c'est plein d'affection et de gentillesse en général, mais c'est pas encourageant, et puis c'est un petit peu hétéronormé, over the norm, quoi.
Oui, puis encore une fois, ça nous viendrait pas à l'idée de dire ça à quelqu'un pour le cas inverse, en fait. Si par exemple la norme c'était de se faire vasectomiser, enfin, ou je sais pas, en tout cas on viendrait pas dire à quelqu'un mais t'es sûr que tu veux vraiment cet enfant, mais réfléchis bien, peut-être on en reparle dans 4 mois, et puis on verrait pas ça. Enfin, en tout cas, moi, de ce que je connais de mon parcours et de ce que je peux voir autour de moi, à partir du moment où des personnes ont décidé de faire un enfant, il suffit d'aller voir sa gynéco ou même de... Enfin, en tout cas, voilà, à partir du moment où c'est décidé, c'est super rapide, et personne ne vient remettre en question ce désir-là, quoi. C'est pas... En tout cas, c'est vraiment pas du tout les mêmes enjeux, et c'est pas du tout pris de la même manière, ça, c'est sûr, quoi.
En fait, là, j'entends plus rien.
Ah, j'entends plus rien du tout.
Ouais, mais c'est pas grave. Ah.
Bah si, un peu.
C'est l'émission quand elle sera en ligne.
Ouais.
je sais pas, en studio, elles ont l'air étonnées, mais bon, voilà.
Ça arrive.
Ouais, bon. Bon, alors en tout cas, voilà, on est bien contente de ton appel, et puis si ça peut aussi servir à d'autres, et puis encourager ou soutenir d'autres hommes à faire cette démarche, et ben
déjà à se poser la question de quelle prise en charge de la contraception de leur part, et puis après, oui, pour aller dans cette démarche si c'est leur envie. Ouais,
je pense que ça peut être bien. Et ce qui m'a aussi beaucoup étonné quand j'étais en train d'y réfléchir, c'est que j'ai jamais lu une seule brochure là-dessus.
Ouais. Non, mais c'est clair qu'il y a très très peu d'informations, et aussi très peu de témoignages, en fait. Et c'est pour ça que c'est pareil dans nos pratiques ou dans nos choix, je pense qu'il y a une part aussi importante de cette démarche-là de témoigner, comme tu es en train de le faire, parce que il suffit pas de trouver les infos, mais c'est aussi très précieux dans ces moments-là de pouvoir avoir un regard sur d'autres parcours, d'autres personnes qui ont vécu la même chose, enfin...
C'est sûr que moi j'ai l'impression que toi là t'as quand même vraiment pris à bras le corps ce processus. De toute façon t'es obligé, je pense, dans un parcours comme ça. Mais voilà, si ça manque de brochures, moi j'ai l'impression que ton témoignage il est intéressant sur plein de formes. Donc vas-y, écris une brochure.
Ouais.
Non mais c'est vrai. Enfin bon, après faut que t'aies envie, hein. Mais ça, je pense que ça peut être intéressant.
Ouais, c'est. Je pense qu'il y aura moyen de faire un truc comme ça, mais j'écris tellement mal que.
Oh. Tu peux trouver des acolytes si t'aimes pas la manière dont t'écris après.
Ouais, tout à fait. Tout à fait. Après, sur le site de l'État, il y a une plaquette qui est pas mal fichue avec les choses expliquées correctement. Le Wikipédia est un petit peu effrayant.
Ouais. Ah oui?
Ouais, en fait, il parle vachement des essais secondaires, la suite. Et c'est vrai que on galope pas. Moi, j'avoue qu'encore un mois après, je suis pas super fan de monter sur un vélo, par exemple. Mmh. Mais par exemple, j'ai fait une énorme randonnée la semaine passée et ça pose aucun problème.
Mmh. Voilà. Oui, comme toute opération, de toute façon, à un moment, il y a un temps de convalescence, comme on dit.
Oui, oui, tout à fait.
Mmh. Mmh. D'accord.
Ok. Est-ce que t'auras envie de rajouter des choses?
Non, je. Bah merci, merci. Et puis.
merci à toi. Et du coup, on te repasse Maud.
Ok.
Voilà, tu raccroches pas. Salut.
Salut. Au revoir.
Au revoir. Et voilà. Puis nous, on va s'enchaîner peut-être sur une petite musique.
Oui. Alors, et puis après, on reprend l'antenne avec des petites infos et. Enfin voilà quoi.
Ça sera la fin,
restez,
quoi.
Restez là.
Juste pour présenter la musique parce qu'elle était liée au terme de l'avortement. C'est une chanteuse qui s'appelle Agnès Bill. Et le titre de la chanson, c'est L'enceinte vierge. Je vous laisse découvrir les paroles.
Dans les cités, les bidonvilles, le pape bénit la pauvreté. Ça passe le temps, ça tient tranquille. Ceux qui n'ont plus rien à becter. Et puis le très Saint-Père a dit, faut faire des gosses, même ce repos. Ils iront vite au paradis. De toute façon ici, il n'y a pas de boulot. Oh dis monsieur, qu'est-ce qui se passerait si la Sainte Vierge, elle avortait? Sans le paradis, ce serait peut-être mieux. S'il te plaît, fais-moi rêver un peu. Partout on crève, mais c'est une chance. Et puis faut bien se faire une raison. Au moins ça limite les naissances. Sans cette damnée contraception. Bien sûr, les viols font une moyenne. Faut se résigner, surtout rien dire. Que naissent les gosses de la haine. Pourvu qu'ils soient faits sans plaisir. Oh, dis monsieur, qu'est-ce qui se passerait si la Sainte Vierge, elle avortait? Sans le paradis, ce serait peut-être mieux. S'il te plaît, fais-moi rêver un peu. On parle de vice et de péché. Et on excise des gamines. Pourvu qu'il y ait frigidité. On peut pas dire que ce soit un crime. Faut pas croire que ce soit de l'esclavage. Puisqu'elles ont le droit de prier Dieu. Dans les liens sacrés du mariage, si ça fait mal, qu'elle ferme les yeux. Dis monsieur, qu'est-ce qui se passerait si la Sainte Vierge, elle avortait? Sans le paradis, ce serait peut-être mieux. S'il te plaît, fais-moi rêver un peu. Faire des mômes, c'est pas un loisir. Faut que les mères pondent sans conviction. Mais si elles peuvent pas les nourrir, c'est plus prévu par la religion. De toute façon, elles n'ont qu'à se laisser faire et se soumettre au testament. Se montrer dignes de leurs ovaires et se laisser engrosser sagement. Oh, dis monsieur, qu'est-ce qui se passerait si la Sainte Vierge, elle avortait? Sans le paradis, ce serait peut-être mieux. S'il te plaît, fais-moi rêver un peu. Ceux qui ont de la moralité montent des gangs, des commandos. Pour faire naître ceux qu'ils vont taxer, plus tard d'être des enfants de salauds. Les bien-pensants, les bonnes chrétiennes vont s'occuper de ces petites garces. Le temps qu'éclose leurs mauvaises graines, qu'on oublie après à la das. Oh, dis monsieur, qu'est-ce qui se passerait si la Sainte Vierge, elle avortait? Sans le paradis, ce serait peut-être mieux. S'il te plaît, fais-moi rêver un peu. Ils se protègent sous leur tonsure et revendiquent leur petite calotte. Sans doute pour eux que c'est plus sûr que de nous laisser mettre des capotes. Pas la peine d'avoir son certif pour nous faire docilement gober. Satan et ses repositifs, comme tous ceux qui l'ont bien cherché. Oh, dis monsieur, qu'est-ce qui se passerait si la Sainte Vierge, elle avortait? Sans le paradis, ce serait peut-être mieux. S'il te plaît, fais-moi rêver un peu. Le seul virus qui soit bien vu, c'est l'Église, c'est la religion. Fais gaffe à toi si tu l'as plu. On te pardonne mal ta guérison. Ces malades là sont sanctifiés. Au ciel y a plus de phase terminale. Et martyr c'est bien mieux payé que de travailler seul à l'hôpital. Oh, dis monsieur, qu'est-ce qui se passerait si la Sainte Vierge elle avortait? Sans le paradis ce serait peut-être mieux. S'il te plaît, fais-moi rêver un peu. Hey. Dis monsieur, je te crois pas. T'oublies qu'aujourd'hui c'est dimanche. Jamais la Vierge n'avortera. On la fête sainte, pas faiseuse d'ange.
Vous êtes toujours sur Calibre en ce 4 octobre...
Novembre.
J'y arriverai pas ce soir, je n'y arriverai pas. Donc 4 novembre, et ben tiens, j'ai qu'à te laisser parler.
Oui, bah, Bon, du coup, ça fera une émission presque thématique.
Ouais.
Bon, non, sauf avec l'appel, du coup, où on a parlé d'autre chose que l'avortement. Mais on est quand même dans la thématique de la maîtrise de la fécondité, en fait.
Tout à fait.
Donc, pour poursuivre un peu là-dessus, moi, j'avais juste envie de dire un tout petit truc par rapport à la double page que j'ai évoquée tout à l'heure. Donc, le Conseil général édite un magazine qui s'appelle Isère Magazine, n'est-ce pas ? Et au mois de mai dernier, ils ont fait une double page sur en gros, contraception, information, etc. Et ils parlent notamment des centres de planification familiale, où est-ce qu'il y en a en Isère, etc. Bon, c'est un magazine qui est quand même très... C'est un peu la promotion du Conseil Général, quoi. C'est pour dire, ah, qu'est-ce que fait le Conseil Général ? C'est très, très bien. Où est-ce que passent nos sous ? Donc, bon, c'est pas très objectif. Mais bon, voilà. En tout cas, moi, l'aspect positif que je voyais de cette double page, c'est qu'ils font quand même un peu l'état des lieux des centres de planification. Où est-ce qu'il y en a, déjà, en Isère ? Et... qu'est-ce qu'on peut y faire ? Donc, ils rappellent un peu la mission principale des centres de planification, à savoir informer au niveau moyen de contraception, IST, etc.
Et infection sexuellement transmissible.
Oui, IST. Tout à fait. Et donc ça, c'est bien parce que je pense qu'effectivement, il faut continuer à le dire, il faut continuer à faire de l'info. Sur tout ça et c'est pas si souvent finalement que dans des documents comme ça officiels, un peu institutionnels, qu'on parle de ces sujets-là qui sont quand même assez tabous. Enfin, c'est pas en général, on présente pas ça comme quelque chose de très très sympathique. Donc bon, voilà, moi je trouvais ça bien. Bon, ce qui m'a un peu énervée, mais comme à chaque fois, de toute façon, sur ces questions-là, c'est que donc la personne qui a écrit cet article écrit des phrases du genre « Le nombre des interruptions volontaires de grossesse reste encore beaucoup trop important malgré les multiples avancées en matière de contraception. Ben, » moi, par exemple, quand je lis ça, ça m'énerve parce que je trouve ça particulièrement culpabilisant d'écrire ça comme ça. Genre, vous voyez, les femmes, vous êtes un peu quand même à la ramasse, voire un peu gourde, quoi, parce que vu les avancées qu'il y a eu sur la contraception et les informations qu'il y a dessus, vous arrivez encore à tomber enceinte alors que vous le vouliez pas. Ça fait un peu ça, quoi. Et moi, j'en ai un peu ma claque de lire des trucs comme ça parce que, comme tu le rappelais tout à l'heure, sur 40 ans de fécondité, le risque zéro, il n'existe pas. Et des ratés, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, il y en a. Et en plus, je rappelle que pour tomber enceinte, a priori, il faut être deux. Donc c'est encore aussi bon, voilà, moi j'aime pas trop ces discours autour de la contraception qui seraient où il y aurait des échecs, où il y aurait des ratés, où il y aurait des personnes qui sont un peu des gourdes parce qu'elles ont quand même réussi à tomber enceinte alors qu'il y a tout ce qu'il faut, etc., etc. Donc bon, voilà. Donc, moi, c'est un peu l'aspect négatif de ce double page. Et puis aussi, avec des photos un peu clichés. Bon, voilà.
Il y a un peu des infos concrètes sur les différentes méthodes de contraception disponibles, des prix, tout ça, non ?
Non, non, non. Il n'y a pas du tout d'infos comme ça. C'est vraiment... juste un état des lieux des centres de planification, quelles sont leurs missions et qu'est-ce qu'on peut y trouver comme info. Mais après, c'est pas du tout détaillé sur la contraception. Par contre, il y a au verso en fait de cette double page, il y a un rappel des 9 méthodes de contraception qui existent actuellement. Et un quiz ou un rappel des vraies et fausses idées sur la contraception.
D'accord.
Mais qui là, c'est pareil, on dirait pas forcément la même chose, nous.
Ouais.
Par exemple, il parle de la méthode du retrait.
D'accord.
Et je sais pas si on dirait la même chose ou... Bon, voilà, bref, c'est...
Ok. Et il y a beaucoup de centres de planification ? Parce qu'en fait, le centre de planification, ça dépend du conseil général. C'est-à-dire, ce n'est pas un planning familial. Le planning familial, ça, c'est une association indépendante avec des militants. Et enfin, militants salariés, mais...
Il y a 24 centres de planification en Isère.
D'accord. Donc, ils dépendent du conseil général ?
Oui.
Plus après...
financés par
D'accord.
le conseil
Parce
général.
Qu'il y a des centres municipaux, je crois, aussi. Alors, je ne sais pas si c'est les mêmes qui sont cofinancés, conseil
ça
général.
Ça doit être des antennes, en fait.
Ouais.
Donc
Ok, 24 sur le département.
Oui.
Donc dans les principales villes, on peut en trouver.
Oui, c'est ça. Ouais.
Ok.
Voilà.
Intéressant.
Oui, c'est. Bon, c'était pas du tout pour dire qu'il fallait lire Isère Magazine. Hein. Mais bon, vous le recevez dans votre boîte aux lettres pour ceux qui habitent en Isère. Alors voilà. Oui. Ah oui.
Bon, par contre, il est.
Oui. Alors oui. Bon. Bah,
est-ce
voilà,
qu'on passerait à l'agenda et puis le reste des chroniques, on se les garde sous le coude pour une prochaine fois.
Oui, je voulais vous parler d'un petit bouquin, mais.
J'ai juste le titre peut-être pour donner l'eau à la bouche.
Défense du poil contre la dictature de l'épilation intime.
Voilà, on en parlera une prochaine fois.
Voilà. Et donc, l'agenda. On rappelle qu'il y a la manif
oui,
samedi.
Oui, manif samedi,
la
je pense, après-midi.
Droit à l'avortement.
Ouais, samedi après-midi, mais c'est une manif nationale sur Paris et je ne suis pas sûre que. En fait, sur Grenoble, sur le bassin grenoblois, il y a un collectif d'associations, de partis, de syndicats qui s'appelle la plateforme IVG. Et il y avait envie de mettre à disposition des bus pour monter à la manifestation sur Paris, mais je crois qu'au final, ça ne s'est pas fait. Alors. Alors, ça sera compliqué, à part si vous avez un moyen de vous y rendre, quoi.
Et puis sinon, on pourrait... deux mots sur le FITA, donc, qui est le Festival International de Théâtre Action, qui va démarrer là sur Grenoble bientôt. Enfin, Grenoble et en Rhône-Alpes, en fait. C'est du 9 novembre au 5 décembre 2010, là. Et on avait envie de vous en parler parce que dans la programmation, il y a notamment une troupe en fait, qui s'appelle l'Atelier Toto B et les Féroces et qui ont permis à des femmes haïtiennes de venir ici pour nous faire partager leurs spectacles et leurs ateliers, etc. Et en fait, nous, on a un peu un coup de cœur pour ça, pour ce spectacle, parce que en fait, ça va être super.
Ouais, il y a pas mal d'échanges entre effectivement ce groupe de théâtre grenoblois, les Féroces. Enfin, c'est des meufs aussi, hein. Et ces femmes haïtiennes, elles sont parties à Haïti, elles sont venues plusieurs fois, et c'est vraiment une chouette dynamique. Donc là, il y a un spectacle. Je crois qu'il
s'appelle Femmes en situation de crise.
Ouais. Ouais. Mais elle propose également un atelier en fait en non mixité entre femmes, meufs, tout ça pour autour de du thème femmes en situation de crise. Je crois que c'est de l'expression corporelle et de l'écriture.
Oui.
Oui. Alors on me fait signe qu'il y a une émission sur elle, mais je sais pas quand.
Ah oui, c'est une émission dégenrée, vous pouvez vous tenir informé effectivement. Donc dégenrée, c'est une émission de radio qui a lieu aussi sur Radio Kaléidoscope tous les premiers et troisièmes mercredis du mois, je crois,
ouais.
ou l'inverse, deuxième et quatrième.
Non, premier et troisième.
Oui, c'est ça. Donc vous pourrez aussi en savoir beaucoup plus lors de cette émission-là.
Voilà, et dans le cadre du FITA, du coup, il y a plusieurs spectacles sur cette thématique cri de femme. Et notamment, ils sont un peu regroupés le vendredi 26 novembre au soir et puis le samedi 27 dans l'après-midi en soirée. Il y a des discussions, des spectacles, voilà. Donc le mieux, c'est sans doute d'aller regarder sur le site internet la programmation parce qu'il y a quand même plein d'autres choses dans ce festival. Et puis voilà, je pense qu'il y aura tout sur leur site internet, je le sais plus par cœur.
Il y a une version papier aussi du programme, en fait. Il y a des petits livrets du programme du FITA. Donc, voilà.
Et puis dernière chose avant de se quitter pour ce soir, on vous rappelle que la semaine prochaine, Calibre est une émission thématique. Une émission thématique qui va parler de la crise de nerfs devant le distributeur vide, mais aussi de l'accident de préservatif qui craque. physiques, en passant par nos fous rires nerveux et les angoisses. Et oui, les capotes nous en font voir de toutes les couleurs. Et voilà, ça sera donc l'occasion de l'appeler pour témoigner, raconter des anecdotes, poser des questions, discuter des difficultés, des peurs liées aux préservatifs, que ce soit les préservatifs masculins ou féminins, ou des stratégies pour les érotiser, les imposer. Bref, un bon programme en perspective.
Et ben voilà, on rend l'antenne. Hein.
Tout à fait. Bonne soirée à vous. C'était Mode, Laura, Emma et Myriam en ce 4 novembre. Et à bientôt. Salut.
Salut.
Corps,
amour, sexualité.
Calibre, une émission en direct sur Radio Kaléidoscope.
Calibre, une antenne libre où poser des questions sans tabou ni jugement.
Tous les jeudis, de 20h à 21h, appelez-nous au 04 76 09 09 09.